Il est 8h31, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, est l'invité de la matinale d'Europe 1. Vous posez vos questions au 3921 et avec le hashtag Europe 1.
Et vous le savez, dans cet exercice, nous nous effaçons, nous laissons la place aux auditeurs d'Europe 1. Olivier, déjà en ligne avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Bonjour
Monsieur Roux-de-Bézieux.
Bonjour.
Allez-y Olivier.
Une de nos craintes est la dette qui s'est creusée fortement pendant cette crise du Covid. Dans le cadre de l'unité nationale, Monsieur Roux-de-Bézieux, ne pensez-vous pas que les partenaires sociaux pourraient se mettre d'accord sur une feuille de route pour répondre à la question « Comment sera payée l'addition et par qui ?» Je pense que les Français ont besoin d'une vision avec des scénarios pour que la confiance revienne. Quel est votre avis vis-à-vis de cette dette ?
Alors bon, répondre en 2000 c'est compliqué, mais oui, on va terminer l'année avec 120% de dette, et c'est tout à fait inquiétant. Et si les Français n'ont pas le sentiment qu'on pourra la rembourser, on va retomber dans une période de défiance, pas de consommation, pas d'investissement, et donc on va creuser. Simplement, ce que je crois, c'est que la meilleure façon de rembourser la dette, c'est de recréer de la richesse tout de suite. Autrement dit, si on n'investit pas de l'argent public maintenant, on va être dans une spirale très négative, et ça sera pire que tout, parce qu'il n'y aura plus de recettes fiscales. Il ne faudra pas l'oublier, simplement, ce problème de dette, dans 6 mois, dans 1 an, quand l'économie recommencera à repartir. Parce que c'est vrai qu'on a eu l'attente, et c'est la faute collective, depuis 30 ans, quand on a eu des périodes de croissance, ben on a oublié de rembourser la dette, ce que n'ont pas fait les Allemands. Pas pour rien que les Allemands défoncent 2 fois plus dans leur plan de relance. C'est parce qu'ils étaient à 60% de dette, et nous, on était déjà à 100. Donc, la confiance dans la capital remboursement de la dette, c'est vachement important. Après, est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec les partenaires sociaux écoutez, joker, non, c'est forcément plus compliqué. On n'a pas tout à fait la même vision du sujet.
En France, on ne peut pas, en fait. Parce que vous parliez de l'Allemagne. En Allemagne, on arrive à se mettre d'accord entre partenaires sociaux.
Je vais vous dire, d'abord, on peut se mettre d'accord dans les entreprises. Il y a eu beaucoup de protocoles d'accord. Et puis, on a quand même signé des déclarations avec la CFDT, la CFTC et l'UNSA, je crois. CFTC, pour ne pas dire de bêtises, sur la reprise du travail, qui était un appel à la reprise du travail. Donc, il y a des possibilités. Sur la dette et la fiscalité, il y a des désaccords, il faut le dire, sur la manière de répartir les efforts.
Et c'était une erreur, je reprends à partir de votre question, Olivier, de balayer ainsi le dogme des 3%. C'est ce qui permettait finalement à l'Allemagne aussi aujourd'hui de résister à cette crise.
Alors, je pense qu'il faut le faire provisoirement.
Mais y revenir.
C'est ça le sujet. Mais c'est un bon investissement. Alors, c'est peut-être dur à entendre, c'est un bon investissement de l'État d'investir de l'argent public intelligemment maintenant. Vous savez, je cite toujours cet exemple. Les Américains ont nationalisé General Motors en 2009. Les Américains, donc pas des communistes sauvages. Bon. Et ils l'ont revendu 3 ans après avec une grosse plus-value. Donc c'est le bon exemple d'investissement public intelligent. Mais au moment de la crise, et c'est une raison simple, alors on m'accuse d'être devenu keynésien, mais bon, j'assume, c'est que l'argent public doit aller quand l'argent privé n'est pas disponible. Et là, il n'y a plus d'argent privé, il n'y a plus d'investisseurs parce que tout le monde a la trouille.
Jérôme nous demande sur le hashtag Europe 1. Merci Olivier de votre question au 3921. Jérôme nous demande, des Français étaient pour, des Français étaient contre la réforme des retraites. Mais moi je voyais des avantages au système par points. Est-ce que Geoffroy Roux-de-Bézieux, vous pensez qu'elle est définitivement enterrée pour ce quinquennat ?
Écoutez, c'est finalement presque pas à moi de répondre d'une certaine manière, c'est une question politique, mais vu le temps qui reste, vu l'ampleur des problèmes qu'a créé la crise, je pense pas qu'il y ait l'espace politique pour traiter ce problème. Pour autant, c'est un peu comme la dette, il faudra pas l'oublier dans les années qui viennent, parce que oui, on a un problème de pyramide d'âge, oui, on a un problème de retraite, et le système à point, alors on avait quelques critiques sur la réforme, mais le système à point était un bon système, il faudra y revenir, mais ce sera peut-être un enjeu de 2022 et de la présidentielle.
8h35, Europe 1. Vos questions au 3921 et sur le hashtag Europe 1, on en a parlé ce matin, on va en reparler dans un instant, l'emploi des jeunes et des apprentis en particulier avec Marie, à tout de suite.
36, vous échangez avec le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, vous composez le 3921, Twitter, hashtag Europe 1.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, je vous présente Marie, qui est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Marie.
Oui, bonjour messieurs.
Et
bonjour.
C'est l'emploi des jeunes qui vous préoccupe, Marie.
Oui, en fait, excusez-moi, quel est le frein à ne pas recruter un jeune actuellement ?
Alors, la première chose qu'une entreprise fait, bonjour d'abord, quand elle a des problèmes de trésorerie, c'est avant éventuellement faire des licenciements, c'est d'arrêter d'embaucher. Et aujourd'hui, il y a des exceptions, mais il y a un coup de frein énorme sur l'embauche des jeunes, parce qu'un jeune, quand on l'embauche, bah, il met du temps à être productif, et d'ailleurs les stagiaires, on n'en parle pas beaucoup, mais trouver un stage aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Et nous, on ne veut pas qu'il y ait une génération, entre guillemets, sacrifiée. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, hein, il y a eu un sacrifice, mais tout à fait normal pour les aînés. Il faut qu'on sache renvoyer l'ascenseur, d'où un plan jeune, avec un volet apprentissage, et ça c'est urgent, parce que c'est le 1er septembre les rentrées d'apprentissage. On a 485 000, enfin on avait 485 000 apprentis, ça marchait très bien. On propose 10 000 euros par apprenti. Alors oui, il y aura des effets d'aubaine, parce qu'il y a quelques boîtes qui avaient prévu de toute façon de recruter, mais je crois qu'il faut l'accepter. Et deuxième volet pour les jeunes non apprentis, qui sont quand même très nombreux, hein, il y a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque rentrée, une exonération de charges pendant les 12 premiers mois pour le premier CDI. C'est un plan qui coûte de l'argent, plusieurs milliards d'euros, qu'on va présenter cet après-midi. Mais je crois qu'il y a un signal, au fond, il y a un signal peu citoyen, politique, pour ne pas fracturer le pays entre ceux qui sont entre libés à l'abri de la crise parce que les retraites sont garanties, etc. Et puis ceux qui ne trouveront pas de boulot. Et la génération 2008-2009, on voit aujourd'hui qu'elle souffre encore. Oui. Il y a une étude très intéressante qui montrait qu'elle souffre encore d'avoir mal démarré sur le marché du travail.
La semaine dernière, on ne rattrape pas le retard de début de carrière.
Voilà. Et donc, tirons les leçons de ce qui s'est passé et montrons collectivement qu'on est capable, et d'ailleurs ça s'adresse aussi aux entreprises, de ne pas fermer la porte. Même si je comprends le réflexe. Hein. On entendait un charcutier là tout à l'heure
dans votre reportage,
qui disait, moi ça fait 40 ans que j'embauche un apprenti par an, ben, cette année je ne vais pas pouvoir parce que j'ai fait 3 mois.
Comment expliquer à un patron qui a encore ses salariés ou des salariés au chômage partiel qu'il va falloir rajouter un apprenti?
Il va falloir, il n'y a pas d'ordre. C'est un geste, je ne sais pas comment dire, citoyen, mais avec une aide significative, le coût est faible. Et on sait tous qu'un apprenti, ça dépend des métiers, ben, au début c'est plus une charge qu'un atout, c'est évidemment un investissement en quelque sorte. Donc c'est un message collectif, on a tous besoin de se retrousser les manches et ça fait partie des efforts qu'on doit faire nous.
L'apprentissage, effectivement, c'est en ce moment que ça se joue.
Oui, les décisions, c'est maintenant.
Oui, quand ils veulent un contrat pour la rentrée, évidemment. Stéphanie nous écrit « Je suis d'accord avec vous, le télétravail n'est pas la panacée. » Alors, elle réagissait un peu plus tôt dans l'émission. « Je m'inquiète de voir de grandes entreprises prévoir des réductions de leur taille de bureaux. Dans un monde de bureaux partagés, ce sera encore plus difficile d'ailleurs, au passage, de mettre à l'avenir en place des gestes barrières. Est-ce qu'on va bientôt nous obliger à travailler de chez nous ?»
Alors. D'abord, légalement, ça n'est pas possible, sauf en cas d'épidémie. Donc le télétravail, c'est par un accord, soit un accord individuel sur le contrat de travail, soit un accord collectif. Mais dans tous les cas, la loi ne permet pas de forcer les gens à travailler de chez eux. Après, on va lancer avec les partenaires sociaux, vous voyez qu'on peut faire du dialogue, un bilan. Moi, je n'ai pas voulu faire une négociation tout de suite parce que je voudrais comprendre ce qui s'est passé. C'est quand même un phénomène, 5 millions de Français en télétravail pendant 3 mois. Il faut comprendre sur le plan matériel, sur le plan un peu sociologique, sur le plan du management dans les entreprises, qu'est-ce que ça donne. En tirer des conclusions et des recommandations, mais ça sera pour moi, enfin je ne vais pas avoir les recommandations avant, ni tout télétravail, ni il ne s'est rien passé. Il y aura peut-être des modes de management avec une partie en télétravail, une partie sur place. J'ai du mal à imaginer un monde, mais peut-être que je manque d'imagination, où tout le monde est satellisé, si j'ose dire, chez soi. Mais en même temps, c'est vrai que du point de vue écologique, du point de vue parfois confort, temps de trajet, il y a des progrès qui ont été faits. Donc il faut essayer de trouver le bon équilibre. Et encore une fois, moi c'est une philosophie que j'ai, il n'y a pas de bonne décision nationale. C'est entreprise par entreprise qu'on peut trouver l'équilibre.
Samuel, c'est plus un commentaire qu'une question. J'entends parler du monde d'après, de social, de télétravail, d'écologie. Franchement, j'ai l'impression que le monde d'après, c'est le monde d'avant avec des droits sociaux en moins.
Écoutez, d'abord, je ne sais pas s'il y a un monde d'après. Moi, je suis dans le monde de pendant. C'est comment faire redémarrer l'économie. Après, je pense qu'il fait allusion, Samuel, au début de notre interview, c'est-à-dire des négociations dans l'entreprise.
Le temps de travail, par exemple.
Mais dans tous ces cas, il faut qu'il y ait une clause, ce qu'on appelle de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire qu'on dise, bah, une fois que le chiffre d'affaires est revenu, une fois que les commandes sont revenues, les efforts qui ont été faits sont soit récompensés, soit donc, par exemple, si je prends un exemple simple, une semaine de RTT qui est supprimée pendant 12 mois, pour travailler plus, à ce moment-là, elle revient par rapport aux accords anciens.
Et monsieur Rodbizet, pardonnez-moi, Samuel vous dit, vous risquez d'encourager la lutte des classes, de faire de chaque Français aujourd'hui un gilet jaune qui descend dans la rue.
J'ai pas vu ce...
Derrière cela, vous l'entendez quand même, ce spectre de la crise sociale. Vous craignez cette explosion
vous-même. Mais vous savez, je pense que la crise sociale, elle sera bien plus grave si on a 3 millions de chômeurs ou 4 millions de chômeurs. Vous avez vu les États-Unis, il y a 40 millions de chômeurs. Ben, à l'échelle française, vous divisez par 6. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est même en dehors de notre imagination. Alors, les États-Unis, c'est pas la France. Donc, tout faire pour préserver l'emploi, je pense que c'est la meilleure solution pour éviter la crise sociale. C'est ça qui doit être notre priorité. Après, il faut que ça se fasse avec des efforts partagés et évidemment pas contre les salariés. De toute façon, une entreprise, ça se dirige pas, en tout cas, ça se dirige pas longtemps contre les salariés.
Merci Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF ce matin, et merci à nos auditeurs Olivier, Marie, Stéphanie, Samuel, d'autres qui ont envoyé leurs questions sur l'hashtag Europe 1 ou appelé au 39 21 avec le président du MEDEF. Entretien ce matin sur Europe 1. Il est 8h42.